Merci Seigneur pour ta parole qui a inspiré des générations de chrétiens. Aide-nous à saisir ce que tu as à nous dire ici et maintenant. Et surtout, aide-nous à mettre en pratique ce que nous recevons de ta part. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc, petit texte, comme je dis, à la fin de l'évangile selon Matthieu, qui clôt la présentation de qui est Jésus. Dans l'évangile selon Matthieu, on commence avec les récits de l'enfance et de la naissance de Jésus. On a une partie commune avec les autres évangiles ou ses premières prédications. Et puis, dans le chapitre 5, Jésus s'assoit, et quand on s'assoit pour prêcher dans ce contexte-là, c'est ex cathedra, comme l'Église catholique dirait, c'est quelque chose d'important. On nomme les disciples, c'est sur la montagne, on est parti. Voilà. Après, on a tout ce qui se passe pendant la semaine de Pâques, avec l'arrestation de Jésus, sa mort, on attend la résurrection. Et là, en quelque sorte, c'est le parenthèse fermant qui ressemble beaucoup à la fin du livre de Deux Chroniques. Dans l'ordre juif, l'Ancien Testament finit à Deux Chroniques et ça finit avec cette exhortation de garder la parole. Et là, Matthieu, quelque part, il fait en sorte de nous dire, bah, là, avec Jésus, on reprend cette idée-là de ce que nous sommes censés faire par la suite. Et donc, le texte commence... donc, ils vont à Galilée, comme Jésus a dit. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Donc, ils se sont prosternés. Certains ont loué, certains ont eu les doutes. À mon avis, certains ont fait un peu les deux. Et je me souviens, quand je me suis converti, j'ai vu ça pour la première fois, et j'ai dit, non, c'est juste pas possible. Ces disciples qui ont tout vu, qui ont vu Jésus qui est ressuscité, et pourtant, ils ont toujours des doutes, et voilà. Mes réflexions très mûres à l'âge de 15 ans, c'était, mais comment c'est possible? Et quelques années plus tard, je suis beaucoup moins dans le jugement. Je sais que moi, assez souvent, quand je viens à l'église, c'est pour louer Dieu. Et parfois, peut-être vous aussi, il y a d'autres voix qui tournent, qui profitent un peu du calme et du silence. Des idées qui reviennent, je pense à la semaine. Je pense qu'il est naturel, mais ce que j'aime dans ce texte est le fait que louange et doute, ils peuvent exister ensemble, et Jésus ne fait pas une énorme prédication « Pourquoi doutez-vous ?» Il continue, et ça m'encourage. Il y a quelques semaines, j'étais présent dans le culte, je faisais rien sur l'estrade, et semaine compliquée, des questions, et... Oui, je ne trouvais pas les mots, il n'y a pas de grande crise, mais quelque part, je ne dis pas super, super bien. Et au bout d'un moment, je me suis assis, j'ai fermé les yeux et j'ai juste écouté la louange, vous qui chantez. Et alors, pour moi, c'est pas, bon, vous chantez bien, mais j'aurais pas à ce point-là, c'était pas la magie de la musique, mais c'était plutôt la communauté qui loue Dieu ensemble. Et en quelque sorte, j'avais l'impression juste d'être porté par ça, de dire que je fais partie de quelque chose qui est plus grand que moi, que Dieu a fondé, que Dieu est en train de construire, et on avance ensemble. Et pour moi, parfois, quand j'ai des doutes, c'est regarder à droite, à gauche, qui m'aide à avancer avec les autres. Voilà. Et après, on tombe sur... voilà, donc Jésus qui dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Voilà. Ce qui introduit le reste. Et là, j'ai découpé par paragraphe en grec. Donc, tout le reste, qui typiquement est au moins de phrases, c'est une seule pensée, c'est une seule idée. Et voilà, c'est un texte assez connu. Comme vous savez peut-être, Suzanne et moi, nous sommes arrivés en France comme missionnaires, et donc on parlait beaucoup de la mission. Et voilà, on faisait des tournées d'église en Angleterre, et je me souviens, je prenais ce verset pour dire, voilà, Jésus dit, allez, il faut aller, et voilà, si on est missionnaire, c'est super. Et c'est toujours le cas, il faut aller. Mais ce que j'ai réalisé assez récemment, c'est que c'est pas le centre du verset. Donc, tout ça, comme je dis, c'est une seule phrase, et comme en français, typiquement, on a un seul verbe principal, et le verbe principal n'est pas aller. Le verbe principal, c'est le verbe qui fait faire des disciples. C'est un mot en grec, mais voilà, on traduit faire des disciples. C'est ça la commande, c'est ça qu'il faut faire. Et tous les autres verbes sont des participes, donc on pourrait dire allons donc. faire des disciples, baptisant, enseignant. On peut traduire comme ça, mais le nœud, quelque part, de ce texte est la question de faire des disciples. Oui, bon, je fais un certain nombre de réunions cette semaine et ça commence à s'entrecouper. Mais hier matin, on regardait la fin d'un Pierre. Et là, c'est Pierre, donc disciple de Jésus, qui parle à des responsables. Il dit, moi aussi, je suis responsable. Paie mon troupeau, paie mes brebis. Reprenons les mots donc de Jean 21 que Jésus a dit à Pierre. Donc Jésus dit à Pierre, Pierre dit non seulement à une personne précise qui est sa descendance, mais à tous les responsables, faire comme ça. Et 2000 ans plus tard, ceux d'entre nous qui ont actuellement une responsabilité, ce texte s'applique à nous aussi. Donc, faire des disciples, c'est pas simplement un savoir, c'est un être. Et aussi, c'est quelque chose qui se transmet par le modèle. Donc, Pierre qui a vu Jésus, Jésus dit, fais comme moi j'ai fait pour toi, fais pour les autres. Pierre, qui était quand même l'un des bergers de l'Église de première génération, dit, vous me connaissez, maintenant vous faites dans le même esprit que moi, de la même façon que moi. Donc il y a quelque chose de très humain là-dedans, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans un livre, c'est vraiment des hommes et des femmes qui marchent ensemble et qui voient Christ les uns dans les autres. Pour moi, c'est le cœur du discipulat qui est au centre de ce texte. Et puis, comme je dis, il y a deux verbes secondaires, baptisant. Et bon, on pourrait constater quand même en passant que la quasi-totalité des textes qui parlent de conversion dans le Nouveau Testament, ils mettent baptême avec. C'était assez important pour les premiers chrétiens, on dirait. Mais baptême, pour moi, c'est une question d'entrer dans une communauté. C'est justement une façon de dire que vous êtes disciples, mais vous êtes disciples les uns avec les autres, vous marchez ensemble. Et le baptême, à cette époque et aussi aujourd'hui, est le symbole du fait que moi, je suis entré dans cette communauté, j'en fais partie, c'est ma nouvelle famille, c'est mon nouvelle école, comme Julia a dit une fois aussi. Voilà, c'est là où je vais avancer. Donc, première chose, c'est baptisant, et ce serait un peu le côté horizontal pour moi, en quelque sorte. On n'est pas seul, on est avec les autres. Et la deuxième dimension, comme on a vu avec le groupe de jeunes hier soir, c'est comme si on en reste là, l'Église, ça peut être magnifique, mais pas plus qu'un groupe de tennis, un groupe de théâtre. On a quelque chose en commun, c'est super, il fait bien chaud ici. C'est sympa, mais ça ne suffit pas pour faire une église. C'est le côté vertical qui fait l'église aussi. Et le deuxième verbe secondaire, c'est enseignant. Voilà. Donc l'enseignement en général qui, dans l'église, est censé venir de Dieu. Donc il y a bien ce côté communautaire, mais quelque part aussi, on suit Dieu, on suit l'enseignement de Dieu, on essaye de comprendre, on essaye de mettre en pratique et on essaye de faire tout ça ensemble. Et ça, pour moi, c'est le projet annoncé là, que ça, voilà, c'est ce à quel Dieu nous appelle en tant qu'individu et en tant qu'Église. Alors après, on a parti, voilà, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc là, il serait question peut-être de parler un petit peu de la Trinité, voilà. Donc, alors, j'échange avec Sylvain, c'est ce que j'avais fait. Je lui ai dit cette semaine, ne t'inquiète pas, tu n'es pas là, je vais juste régler la question de la Trinité. Et vu sa réponse, il se pose un peu des questions. Je pense qu'il prie beaucoup pour nous en ce moment. Voilà. Mais la Trinité, c'est compliqué. C'est compliqué dans le sens où on en parle beaucoup et difficile de s'y retrouver parfois. Donc, j'ai trouvé une image super claire qui va tout expliquer. Voilà, je pense que vous avez tout compris. Voilà, c'est évident. Voilà, c'est une image assez classique d'ailleurs. Ça existe dans beaucoup de formes, si vous cherchez un peu. Et l'idée, en fait, est de dire qu'on a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui sont différents, mais tous les trois sont Dieu. Et puis tu as Jésus qui est Dieu et homme en même temps. Tout est là. Donc, voilà, si vous voulez un résumé de ce qui est la doctrine de la Trinité, ça ressemble à ça. Alors, personnellement, quand je veux prier, ce dessin-là ne m'aide pas énormément. Et aussi, c'est quand je regarde la Bible, je ne vois pas facilement ça qui sort directement. Donc, si vous m'avez parlé une fois d'un paroissien qui, à un moment donné, lui a dit « Oh, vous savez, je ne suis pas trop trinité. » Voilà, c'est une approche, c'est juste, on oublie tout ça, on n'y pense pas. Mais compliqué, parce que c'est quand même assez fondamental dans nos confessions de foi. Il y a quelques personnes quand même qui vont très très loin et qui se perdent dedans. Et je pense que voilà, si on regarde trop la Trinité, c'est un peu regarder dans le soleil. Après, ça ne va plus très bien. Mais il y a des gens qui aiment vraiment le détail. Ou sinon, on commence à faire des simplifications qui ne marchent jamais, mais on essaie quand même. Donc, la Trinité, c'est comme la glace, l'eau et la vapeur. Enfin, non, parce que les trois à l'extérieur ne sont, c'est pas la même chose en trois modes, etc. Donc, ce que je voulais essayer de faire très rapidement et très dangereusement était juste expliquer ma conception de comment on arrive à quelque chose qui ressemble un petit peu à ça d'après la Bible. Parce que, bon, si vous parlez à des témoins de Jéhovah, si vous parlez à d'autres personnes, on vous dit assez, oui, la Trinité n'est pas dans la Bible. Et ils ont raison. Et on pourrait aller plus loin, je dirais la Trinité tout à fait formée comme ça, n'est pas dans la Bible. Absolument, l'Église a mis 5 ou 6 siècles pour finir par arrêter exactement de quoi il s'agit. Mais pour moi, dans le texte qu'on vient de lire et dans bien d'autres textes, on voit les prémices de... on voit que très tôt, l'Église quitte l'idée de « il y a un seul Dieu, point ». Et après, c'est mal formé, c'est dit à moitié, mais on va dans le sens qui amène à la fin, à quelque chose comme ça. Donc, rapidement. Ah oui, donc juste pour vous dire, ça c'est une iconographie qui s'appelle la Trinité. Et précisément, c'est l'image de les trois visiteurs à Abraham. Et donc, il y a des gens qui verraient la Trinité dans l'Ancien Testament. Donc, comme vous avez des gens qui sont parfois vus comme des anges, des gens qui arrivent comme ça, c'est ce qu'on appelle théophanie. Et on dit parfois, c'est la... l'avant-premier, quelque part, de la Trinité, de Jésus, selon comment ça se passe. Voilà. Voilà. Donc, très rapidement, dans l'Ancien Testament, vous avez Dieu, et il y a bien un seul Dieu. Et l'Ancien Testament insiste beaucoup dessus. Et, contrairement à ce que nous on dit dans les cultes la plupart du temps, ce Dieu, il a un nom. C'est pas Dieu en général. Il s'appelle Yahweh. Il a un nom propre, tout comme je suis... Oui, je suis homme, si vous voulez, mais généralement, on m'appelle Marc. Je suis un instant assez précis de homme. Donc, Yahweh, c'est ça. Dieu a un nom. Et Florence m'a demandé pourquoi, si c'est un accident que c'est flou. Non, ce n'est pas un accident, parce que même si ce Dieu, il a un nom, l'Ancien Testament n'essaie pas trop de décortiquer ce qui se passe. Donc, je pense qu'il y a une question de mentalité là. J'ai pensé ce matin à... Oui, je pense qu'il y a Charles qui fait du vin. Il est là, Charles? Je sais pas. Oui. Donc, je pensais à Charles et j'ai pensé à ma fille qui est au biochimiste et qui est très fière parce que depuis quelques mois, elle a son propre spectromètre de masse qui permet d'analyser des choses. OK? Donc, Charles, il fait une bouteille de bon Châteauneuf. On peut dire, qu'est-ce que ce Châteauneuf? Et on peut donner ça peut-être à quelqu'un comme ma fille qui met dans sa machine et ça tourne et tout le reste. Et elle va dire, désolé, c'est surtout de l'eau. Et il y a de l'alcool, et après il y a quelques produits, molécules par-ci et par-là, et on peut les voir. Et si on compare avec un autre vin, on voit que c'est différent. Donc on peut répondre à la question, qu'est-ce que c'est? De cette façon-là, on coupe les cheveux en 4, et c'est super intéressant, et en même temps, c'est pas forcément ce que qui va vous aider à table. Une autre façon de dire, qu'est-ce que c'est? On dit, c'est un bon vin, ça va super bien avec la daube. C'est une autre façon de répondre qui n'est pas plus ou moins précis, c'est juste un autre type de réponse. Et donc, pendant tout l'Ancien Testament, c'est un peu ça, on n'essaie pas d'analyser Dieu, de découper Dieu. Je pense que l'idée même, selon l'Ancien Testament, serait un blasphème, c'est juste pas possible. D'ailleurs, même le nom de Dieu, on ne prononce pas. Et en revanche, il y a quelques métaphores qui sont là. Donc, il y a des textes qui disent « Le bras de Dieu n'est pas trop long pour vous sauver ». Ce n'est pas pour dire que Dieu a un corps et qu'un bras est plus long que l'autre et que il faut pas essayer de faire un dessin de ça. Évidemment, c'est une image. C'est-à-dire, Dieu, il peut agir pour nous sauver n'importe où. Et l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est pareil. Hein? C'est pas présent. L'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est pas une personne. C'est une façon de dire Dieu qui est partout, il fait des choses. Voilà. Évidemment, nous, maintenant, on relit ces textes autrement, mais pour les Juifs à l'époque, c'était pas ça. Okay? Et puis on arrive aux évangiles et on a Jésus qui arrive et on parle de fils de l'homme, qui en fait est un titre de l'Ancien Testament. Parfois c'est fils de l'homme, parfois c'est fils de Dieu. Mais c'est une façon de dire celui choisi par Dieu, celui qui est tellement conforme à la volonté de Dieu qu'on peut presque regarder cet homme pour voir la volonté de Dieu. C'est un peu cette idée qui est là dans les évangiles. Donc après, il y a la mort, la résurrection de Jésus. Voilà, Satan le loue. Déjà, on ne loue pas un prophète, on ne loue pas un enseignant. Donc déjà dans ce texte qu'on vient de voir, on voit le premier pas, on commence à louer Jésus. Et à ce moment-là, il n'est pas simplement un homme. Il y a quelque chose qui se passe. On ne précise pas, mais il y a quelque chose qui se passe. Et puis, dans les premiers écrits du Nouveau Testament, on commence à voir des choses assez étonnantes. Par exemple, 1 Corinthiens, qui était, à mon avis, à l'avis de beaucoup de gens, écrit avant les évangiles, peut-être 30 années avant la résurrection. Au beau milieu d'une discussion sur un autre sujet, Paul prend le schéma, qui est le texte qui dit, sachez qu'il y a un seul Dieu, et il insère Jésus dans cette phrase. Donc, pareil, ce n'est pas la Trinité comme on a dessiné là, mais faire ça, c'est pas un accident. Si on prend le texte qui parle d'un seul Dieu et on ajoute Jésus au formulaire, là, on est en train de dire, Jésus, il est bien plus que, voilà. Et si on regarde dans l'ordre chronologique, on voit petit à petit, les chrétiens réfléchissent et se louangent mélangés de doutes, je ne sais pas, mais je loue quand même. Ils commencent à mettre des mots et des idées à ça. Et l'autre chose juste pour dire, c'est que il y a quand même un changement qui se fait dans l'Église. Donc on a l'Église, première génération, ce sont des Juifs messianiques, avec l'Ancien Testament, avec tout le reste, et là ils ont trouvé le Messie. Un siècle plus tard, schisme définitif entre les Juifs et les chrétiens, et il y a de plus en plus de Grecs ou des gens d'éducation grecque là-dedans. Et les Grecs, c'est beaucoup plus comme beaucoup moins la daube et beaucoup plus spectromètre de masse. Très bien, il y a un Dieu, comprenons, décortiquons, découpons en quatre. Et c'est comme ça que, on finit par dire que Jésus, c'est le Fils, avec un F minuscule, vraiment, il est égal à Dieu, comme certains textes bibliques le disent. Puis on refait la même chose pour l'Esprit, et on dit que dans le Nouveau Testament, cet Esprit qui est juste une image, dans le Nouveau Testament, on parle de l'Esprit qui empêche, on parle de l'Esprit on peut attrister l'esprit. Il y a un aspect de personnalité qui s'attache à l'esprit, et l'Église finit par dire, il y a l'esprit aussi. Et tout ça, si je me souviens bien, voilà, pour finir avec quelque chose comme ça. Donc, on finit par dire qu'effectivement, il y a Dieu le Père, il y a le Christ qui est vraiment Dieu, il y a l'esprit qui est vraiment Dieu. Et là, au lieu d'avoir Dieu au milieu, comme on a eu au départ, j'ai remis Yahweh pour dire simplement que ça reste un mystère. La plupart des problèmes avec les sectes, etc., pour la Trinité, c'est essayer de clarifier des choses où on ne peut pas. Donc pour moi, la Trinité, c'est ça. C'est-à-dire que nous avons le Père, nous avons le Fils, nous avons l'Esprit, et en quelque sorte, tout ça fait Dieu. Et on ne comprend pas parce que simplement on n'est pas à la hauteur de ça. Et peut-être au bout d'un moment au ciel, on aura le temps de comprendre. Mais pour l'instant, il faut juste dire, je sais ce qui est faux. Ça cerne quelque part qui est notre Dieu. Et au milieu, alléluia. Alléluia, je ne comprends pas. Alléluia. Voilà. Bon, on verra la semaine prochaine avec Sylvain si ça passe ou non. Mais voilà, c'est ma façon de voir la Trinité. Voilà. OK. Et je peux laisser ça sur l'écran. Voilà. Et puis on finit avec cet anniversaire. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, la fin du siècle, la fin du monde. Et je vous rappelle juste, encore une fois, c'est une seule phrase. Donc, cette promesse, bon, je ne dis pas que Dieu n'est pas avec vous dans d'autres situations, mais la promesse précise est de, quand vous faites des disciples, quand vous baptisez les nations, quand vous enseignez, là, je suis avec vous, je ne vous quitte pas. C'est dans ce contexte-là que Jésus dit ces mots. Et je pense que c'est une façon de nous rappeler simplement que c'est l'acte qui ressemble le plus à ce que Jésus a fait. Jésus a enseigné les foules, Jésus a enseigné les autres, il a vécu avec les autres. C'est comme nous faisons pareil les uns avec les autres et avec les gens qui ne sont pas encore là. C'est là où on vit vraiment dans cette optique de Jésus, où il ne nous quittera jamais, sachant qu'il est avec nous et il nous appelle à le suivre. Prions. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu infiniment grand, comme nous avons chanté. Merci parce que tu nous dépasses et pourtant tu as fait des pas vers nous. Merci pour ton Fils qui est mort afin de nous permettre de te connaître, le Père. Merci pour ton Esprit qui est déversé sur nous et qui nous permet de vivre avec puissance et avec joie. Et Seigneur, aide-nous tout simplement à marcher avec toi, sachant que quand les gens marchent avec toi, c'est contagieux et d'autres personnes s'y intéressent. Merci d'être avec nous aujourd'hui, tous les jours et jusqu'à la fin. Amen.